Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est une information qu'on vous révèle ce matin sur RMC. 25 ans après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, le terroriste français Zakarias Moussaoui, le seul à avoir été condamné pour sa participation, vous entendrez qu'il demande à purger la fin de sa peine de prison en France. Il est très attendu, c'est ce matin à 9h, que le gouvernement va finalement dévoiler le contenu de son plan d'urgence agricole. Dans un contexte de canicule, la 6e depuis le début de l'année, nous serons en direct de Toulouse, où on attend jusqu'à 38 degrés aujourd'hui.
Bientôt 25 ans après les attentats du 11 septembre, l'unique terroriste condamné demande à purger sa peine en France.
Oui, vous vous souvenez certainement de son nom, Zakarias Moussaoui, 58 ans. Aujourd'hui, membre revendiqué d'Al-Qaïda, condamné donc à la prison à vie. C'était en 2006 aux États-Unis. Mathias Tesson, vous êtes le chef du service police-justice à RMC, en direct avec nous ce matin. Et vous nous révélez donc qu'il demande à purger la fin de sa peine de prison en France. Pourquoi cette demande ?
Eh bien, il espère ainsi un jour obtenir des conditions de détention peut-être plus favorables sur le territoire français. Rappelons qu'il est incarcéré aux États-Unis dans une prison de très haute sécurité. Il dénonce aujourd'hui des mesures d'isolement sans limite et une limitation drastique de ses contacts humains. L'homme de 58 ans demande aussi le maintien de ses liens familiaux, notamment pour pouvoir voir sa mère qui est en France et dont l'état de santé ne lui permettrait pas de se déplacer jusqu'aux États-Unis. Un transfèrement en France lui laisserait aussi une infime chance d'être libéré un jour.
Tout le monde se pose la question évidemment ce matin, est-ce que ça a une chance d'aboutir ?
Alors cela apparaît aujourd'hui très improbable, même si sur le principe cela est possible. En réalité, il faudrait l'accord des deux pays et c'est vrai qu'on imagine mal, sauf coup de folie, Donald Trump accepter de se débarrasser du seul condamné pour cet attentat responsable de près de 3000 morts aux États-Unis et qui a changé la face du monde. Son avocat en France, maître Romain Ruiz, compte aussi demander la révision de son procès aux États-Unis.
Information RMC, donc signé Mathias Tesson ce matin. Les États-Unis, on en parle, on y reste, rien ne les arrête. Visiblement là-bas, vous savez qu'on est en pleine campagne pour les élections de mi-mandat. Et alors Donald Trump a trouvé un nouveau moyen de mettre en avant sa politique anti-immigration. Romain, vous allez tout nous expliquer dans un instant. Ces dernières heures, la Maison Blanche a mis en ligne sur son site internet un jeu vidéo qui consiste à attraper des personnes en situation irrégulière.
Oui, c'est un jeu inspiré d'un classique du jeu d'arcade auquel toute une génération a joué, c'est Snake. Le principe, vous dirigez un serpent qui doit manger des points pour grandir sans se mordre la queue ni toucher les murs. Voilà, c'est la même chose, sauf que là, vous n'incarnez pas un serpent, mais Tom Homan, principal conseiller de Donald Trump sur l'immigration. Et vous devez interpeller et rassembler derrière lui le plus de personnages, des personnes immigrées ayant traversé le fleuve Rio Grande à la frontière avec le Mexique afin de les expulser. Le titre du jeu, protéger la frontière de la horde qui arrive. Et ce n'est pas le seul jeu mis en ligne cette nuit par la Maison Blanche. Il y en a un autre qui consiste à construire un mur à la frontière mexicaine sur le principe du célèbre Tetris. Depuis, les critiques pleuvent aux États-Unis, à commencer par les ONG qui dénoncent une déshumanisation des personnes immigrées. Mais la Maison Blanche défend, elle, une initiative qui, je cite, souligne encore davantage le contraste entre une culture du fun et de la gagne et, je cite toujours, la sombre vision socialiste des démocrates pour l'Amérique.
Sur le continent américain, sachez que le Panama réduit à partir d'aujourd'hui le nombre de bateaux pouvant passer dans son célèbre canal pour la deuxième fois seulement de son histoire, la faute à la sécheresse qui a des conséquences vraiment partout sur la planète et on est bien placé pour le savoir en France avec cette sécheresse donc qui touche nos cultures. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement va enfin dévoiler son plan d'urgence agricole. On en a beaucoup parlé cette semaine. Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC, ça aurait dû être hier, finalement ce sera tout à l'heure à 9h et on sait que l'attente est grande.
Oui, et la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ira elle-même présenter ses mesures en fin de matinée aux agriculteurs sur la foire de Châlons en Champagne. Le gouvernement veut montrer qu'il mesure l'ampleur des difficultés. 90 départements confrontés à des effondrements de la production, insiste Matignon. Un plan destiné à passer l'hiver, avait promis Sébastien Lecornu, et qui devrait comporter des aides pour indemniser les pertes, renflouer la trésorerie des exploitations, financer l'achat de fourrage ou d'engrais, ce qui va nécessiter une enveloppe considérable au-delà du milliard d'euros qu'il faudra financer par de nouvelles coupes budgétaires ailleurs, prévient Matignon. Bercy va procéder à de nouveaux gels et annulations de crédits, d'autant qu'il faudra ensuite travailler un second volet pour relancer la production. Des concertations vont s'ouvrir pour inclure de nouvelles mesures dans le futur budget 2027.
Mais alors la sécheresse, c'est pas prêt de s'arranger avec les nouvelles fortes chaleurs, la nouvelle alerte orange canicule dans 5 départements du Sud. C'est la 6e canicule depuis le début de l'année en France. On attend jusqu'à 38 degrés aujourd'hui à Toulouse. Vous allez l'entendre avec ce charcutier dans un instant, ça en fera certainement un nouveau record de chaleur pour un mois de septembre.
c'est juste impressionnant. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas connu des records pareils et on est à la limite de l'insupportable parce que pour nous, pour dormir, pour le travail, pour plein de choses, c'est assez difficile à vivre et à gérer, quoi.
Bon, Météo France l'a confirmé hier, on vient de vivre tout simplement l'été le plus chaud jamais enregistré, l'été le plus chaud de notre histoire. Sur les 92 jours de juin, juillet, août, 83 journées étaient au-dessus des normales de saison. Louis Salé pour RMC. Aujourd'hui, on parle d'un été exceptionnel, mais vous nous dites que si rien ne change, Météo France prévient que dans quelques décennies, eh bien, un été comme ça, finalement, ce sera habituel.
Oui, en 2100, la France aura gagné 4 degrés de plus en raison du réchauffement climatique. Et un été comme celui de 2026 sera considéré comme un été ordinaire. 2026, c'est une carte postale du climat de 2100, aussi bien en termes de température que de sécheresse des sols. Le record de 53 jours de vagues de chaleur sera largement battu. Il y en aura plus de 90 lors des étés les plus chauds. Le risque incendie sera étendu à l'ensemble du territoire et la saison des feux pourrait durer 2 mois supplémentaires. Mais ce tableau apocalyptique n'est pas figé. Une réduction plus rapide des émissions de gaz et effet de serre peut réduire l'intensité de tous ces phénomènes.
C'est un miracle qui semblait presque inimaginable. Au Népal, 10 jours maintenant après la crue dévastatrice, on apprend que les secours ont réussi à extraire, là, cette nuit, 2 ouvriers de chantier qui étaient retenus prisonniers dans un tunnel dans le nord du pays. La France prépare la venue du pape Léon XIV. Ce sera à la fin du mois pendant 4 jours à Paris, Lourdes, Metz également. 15 000 forces de l'ordre seront déployées. C'est ce que dit ce matin le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dans le journal La Croix. L'information de la nuit en sport, c'est l'élimination. C'est fini pour Gaël Monfils à l'US Open de tennis, battu au deuxième tour par un jeune américain cette nuit pour son tout dernier tournoi du Grand Chelem. Vous savez qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison, lui qui est aujourd'hui âgé de 40 ans. Cette question aussi ce matin, le PSG va-t-il gagner son premier match de la saison en championnat ? Paris va jouer ce soir, 21h05, on vivra ça sur RMC contre Monaco, qui est l'équipe en forme de ce début de saison. Contrairement aux Parisiens, donc, qui n'ont toujours pas gagné le moindre match, Valentin Jamin.
Oui, Paris coincé dans la deuxième partie du classement, c'est rare, et si le PSG ne gagnait toujours pas ce soir, ce serait même une première après 3 matchs en Ligue 1 depuis l'arrivée de Luis Enrique. Mais au club, pas d'inquiétude, disent les recrues Lucas Digne et Mika Götze.
La Ligue 1, c'est un marathon aussi, et à la fin, il faut faire les comptes, c'est pas après 2 journées où il faut déjà faire les comptes.
Je pense pas, il y a de pression. On est très calme et on va juste essayer de gagner. Mais il n'y a pas de pression.
Monaco pourrait quand même prendre 7 points d'avance ce soir et depuis le début de saison sur la scène nationale. Paris a par exemple perdu aussi le trophée des champions à Lens. Mais le PSG a affronté uniquement des adversaires qualifiés en Coupe d'Europe. Alors Luis Enrique est taquin.
Qu'est-ce que tu penses que c'est ? On ne gagne pas, on est dehors de la course les titres.
L'entraîneur parisien attend aussi que ses 5 recrues s'adaptent.
Ça dépend de beaucoup de facteurs que je ne peux pas contrôler. Il y a beaucoup de choses positives que j'ai vues pendant ce dernier match, mais c'est clair qu'il faut améliorer et que chaque année sera très motivant pour les adversaires de jouer contre nous et très difficile pour nous de continuer à gagner.
Face à une équipe de Monaco qui a battu Paris 2 fois la saison dernière.
Alors avant ça, à 19h, Lyon recevra Auxerre et c'est Lille qui est en tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire 1-0, c'était hier soir à Toulouse en ouverture de la 3e journée de Ligue 1.
C'était le journal de Quentin Vinet.